Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine d'octobre 2024, ici Alex Bergeron, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Car, une fois n'est pas coutume, ou en tout cas, petite résurgence au Québec du phénomène des citoyens souverains. Ceux qui prétendre avoir compris comment fonctionne le système et refusent de payer leurs impôts, leurs taxes. Ce qui fait en sorte que, ils sont dans le trouble. Ils sont dans le trouble au point où ça peut leur coûter leur maison. On apprenait cette semaine, en début de semaine, qu'un couple du Bas-Saint-Laurent s'était fait expulser de leur maison pour ne pas avoir payé leurs taxes municipales pendant un assez bon bout de temps, qui a fait en sorte qu'ils ont perdu leur maison aux enchères. Une maison qui valait 1 million de dollars qui a été revendue pour à peine 115 000 dollars. Et ça, c'était sous les conseils de la reine dite du lot. Reine autoproclamée du Canada, on avait parlé à l'émission, qui, est originaire de la Colombie-Britannique, a relayé les informations de QAnon pendant la pandémie, en disant qu'elle était la représentante canadienne de QAnon. Et depuis, elle est devenue la reine du royaume du Canada et des armées de l'Amérique. Donc, techniquement, c'est elle qui gère et le Canada et les États-Unis. En tout cas, essentiellement, c'est une petite madame de Colombie-Britannique qu'on n'avait jamais entendu parler avant, qui fait des menaces de mort aux gens qui ont fait la promotion de la vaccination pendant la COVID et qui, depuis 2 mois et demi, 3 mois, habite semi-légalement une école abandonnée en Saskatchewan pour avoir rétabli son royaume du Canada. Bref, ce personnage-là en est un, celui qui est le plus près de chez nous, après le Bas-Saint-Laurent, mais le plus près de chez nous en Estrie. C'est du côté de Magog. Joël Lacroix, 56 ans, est un citoyen souverain de la région de Magog qui a perdu sa maison pour avoir refusé de payer ses deux hypothèques et ses taxes résidentielles. Il a été précédemment dans les quelques candidats québécois du Parti libre Canada. Faisait la promotion de la souveraineté citoyenne et de ne plus payer de taxes au gouvernement. Donc, en tant que citoyen souverain, c'est de cette manière-là qu'il s'est présenté devant le juge en disant ne pas être soumis, lui, aux lois québécoises parce qu'il n'avait pas donné son approbation à la Corporation québécoise. Peu importe ce que ça veut dire. Joël Lacroix reconnaît qu'il adhère aux thèses des hommes libres, citoyens souverains ou freemen of the land. Il se présente devant le tribunal en invoquant diverses formules incompréhensibles qui tiennent davantage du rituel que de l'argumentaire juridique ou logique. Ce sont les principales lignes qu'on peut lire dans le récent jugement de la Cour supérieure des affaires. Dans cette affaire, je devrais plutôt dire, le quinquagénaire se retrouve désormais dans l'eau chaude puisqu'il a contracté deux prêts hypothécaires de 214 000 $ et il a arrêté de rembourser ses créanciers depuis novembre 2023, donc depuis presque un an. Joël Lacroix refuse ainsi de payer ses taxes municipales et scolaires sur sa demeure à Magog, évaluée à 222 700 $ depuis janvier 2023. La défense de Lacroix est abusive, les arguments soulevés sont mal fondés, n'ont aucune assise en droit. Lacroix agit de manière purement dilatoire en multipliant les arguments et les demandes afin de gagner du temps. Donc, évidemment, il se présente en cour, il dit qu'il désire le report parce que, surprise, il se représente seul. Ou en tout cas, l'absence de surprise dans ce cas-ci. Il a invoqué la Bible devant le 30 septembre dernier, alors qu'il perdait son immeuble pour délaissement forcé. Ses créanciers deviennent propriétaires de son bâtiment pour rembourser ses dettes. Aucun autre remède que le rejet pur et simple de la défense ne peut être considéré en l'espèce. La Croix ne reconnaît pas être soumis aux droits applicables à l'ensemble des citoyens québécois. Il est donc inutile, dans ce contexte, de considérer un remède alternatif. Ce dernier, d'ailleurs, déplore que le citoyen souverain est tenté de se défendre en invoquant la Bible ou encore avec des documents bidons marqués de ses propres empreintes digitales. Donc, voici mon argumentaire, je ne sais pas trop. Il s'était présenté dans la circonscription de Shefford aux dernières élections fédérales. Donc, voilà pour la petite histoire politique. Évidemment, il n'a pas gagné. La Cour supérieure a ordonné son expulsion la semaine dernière. Joël Lacroix, qui pratiquait le métier d'émondeur, a obtenu un délai de 10 jours pour plier bagages. Reste à voir s'il y sera encore au 11e. Je ne partirai pas. Ils n'ont pas force de loi. S'ils viennent chez moi, ils seront poursuivables aux criminels. Devant quelle cour, c'est jamais précisé. Lacroix précise par téléphone ne pas être un citoyen souverain, même s'il affirme le contraire à la Cour supérieure. Notons que le quinquagénaire s'était présenté, voilà, à Shefford en 22 pour le Parti libre Canada, parti qui proposait essentiellement de suspendre les vaccins contre la COVID-19. Et ça, je le rappelle, c'était pour l'élection de 2021. Fait que, il était encore là-dessus, bien sûr. Ça, c'était pour le cas en Estrie. L'autre cas qui est le plus triste là-dedans, c'est ceux qui sont tombés sous le joug de Romana Didulo. Voilà, qui ont perdu leur terrain et leur maison évaluée à 1 million de dollars pour la modique somme de 116 000 $ aux enchères pour seulement une dette de 11 500 piastres d'impôts. Pas d'impôts, mais de taxes. Donc, parce qu'ils ne voulaient pas payer leurs 11 000 de taxes, ils ont tout perdu. Parce que Romana Didulo, elle, dans ses lubies, dans ses fantasmes de règne suprême sur le Canada, a déclaré, a émis un décret royal, comme ils aiment le dire, comme quoi tout citoyen du Royaume du Canada n'avait pas besoin de payer ses impôts, ses taxes, son gaz, son électricité, tout dépendamment des provinces, mais tu sais, n'avait pas besoin de payer pour ses services parce que dans le royaume de Romana Didulo, ce sont des services obligatoires, donc ce n'est pas normal de payer des taxes. Et parce que elle, Romana Didulo, dit que toutes les infrastructures provinciales et gouvernementales sont frauduleuses, ben c'est pas vrai qu'on va leur payer ce qu'on leur doit parce que, justement, ils ne sont pas régis par le Royaume du Canada, etc., etc., etc. Donc, ce faisant, ben le couple de 70 ans ont perdu leur maison à Saint-Simon de Rimouski cette semaine. Régent Damour et André Lévesque ont tout perdu en se fiant à Romana Didulo. André Lévesque mentionne n'avoir aucune obligation comme citoyenne à payer des taxes à une corporation, être à l'abri de toute réclamation pour différentes dettes et être plutôt assujetti. Et ça, il aime beaucoup ça, les citoyens souverains, autant aux États-Unis qu'au Canada. Être assujetti à la Cour internationale de justice du common law, qui est comme leur propre lecture des textes de loi qui normalement s'appliquent dans les deux pays parce qu'on est dans le même grand royaume. Peu importe. Romana Didulo, la reine QAnon a trop proclamé du Canada, s'était fait connaître pour ses nombreuses théories complotistes durant la pandémie. Elle a notamment appelé au meurtre du personnel soignant en administrant le vaccin, qui administrait le vaccin de la COVID-19. Il y a eu des vidéos pendant la pandémie de ses disciples qui se rendaient, par exemple, dans des pharmaprix en Ontario pour émettre une ordonnance d'arrêter toute vaccination, sinon ils allaient les poursuivre devant la cour de Romana Didulo, je le sais pas. Fait que voilà, c'est un très, très gros gouffre dans lequel se sont empêtrés ces deux personnes-là, Régent Damour, André Lévesque, du côté de Rimouski. Ils ont refusé de quitter leur maison jusqu'à tout récemment. Ils ont été évincés de force par les policiers en décembre 2023. Donc, probablement tout juste avant Noël, ils se sont fait sortir de leur maison parce que, justement, ça n'était pas remboursé. Ils s'obstinaient à continuer de dire qu'ils ne devaient pas payer ce qu'ils devaient à la municipalité. Évidemment, Saint-Simon-de-Rimouski, c'est pas le plus gros village non plus, donc tout le monde se connaît. Le maire connaissait personnellement M. Damour, qui était même allé dire, là, Régent, à un moment donné, il va falloir que tu payes tes affaires, parce que là, on n'aura pas le choix, sinon. Régent était bien connu dans notre... Voilà la citation. Régent était bien connu dans notre communauté. Il aidait beaucoup en faisant des petits travaux pour plusieurs. C'est dommage, ils avaient en masse d'argent pour payer les taxes. Ils ont perdu près d'1 million en valeur de terrain immobilier avec toute cette histoire de théorie complotiste. Se désolait le maire de Saint-Simon. Une observatrice sur Twitter qui suit le phénomène de Romana Didulo, la docteure Christine Sarteschi, qui est américaine, si je ne me trompe pas, a été interviewée par le journal et par TVA Nouvelles Bas-Saint-Laurent. Elle est professeure de travail social et de criminologie à l'Université de Chatham de Pittsburgh aux États-Unis. Et elle avait publié précédemment en 2023 un article scientifique sur le phénomène de Romana Didulo. Il y a eu un reportage aussi à l'équivalent d'enquête à CBC, si je me souviens bien, l'automne dernier. Mais le titre du documentaire en tant que tel m'échappe. Mais leur version d'enquête au Canada anglais avait fait le portrait de Romana Didulo. Très facilement rattrapable en tapant son nom, probablement dans la plateforme CBC. Et c'est pas la première, c'est pas les deux premiers cas de citoyens souverains qui perdent leurs acquis. Surtout Romana Didulo, c'est pas rare que sur les groupes Telegram, les groupes secrets, entre guillemets, de conversation de Romana Didulo, que des citoyens canadiens qui se sont fait avoir par elle écrivent en étant en pleurs, en étant complètement défait, en disant « Reine Romana, venez-nous en aide, ils sont en train de vider ma maison, j'ai perdu mon logement des 30 dernières années » ou « Ils sont en train de couper le gaz dans ma rue, faites quelque chose, envoyez l'armée de Romana », etc. Fait que c'est réellement des gens en détresse parce qu'ils continue de croire à Romana Didulo. Un des cas les plus tristes qu'on a pu voir sur cette plateforme-là, c'est ça, c'est cette femme-là, sauf erreur en Ontario, qui a perdu sa maison, perdu son logement, qui s'est ramassée à vivre dans son char avec son enfant de 11 ans ou 12 ans qui écrivait peut-être à tous les jours, si c'est pas... à toutes les 4 heures. Romana, venez-nous en aide. Nous sommes dans la rue. Je vis dans mon auto depuis 4 jours. Ça n'a pas de bon sens. La corporation a volé mon logement, etc., etc. Fait que c'est vraiment des cas extrêmement tristes de personnes vulnérables qui sont tombées dans cette gimmick-là qui mènera nulle part à part dans la rue, littéralement. Et malheureusement, il continue à y avoir des gens qui adhèrent ou qui croient que Romano Di Lullo a un réel pouvoir au Canada, malgré qu'ils sont des dizaines, voire quasiment une cinquantaine de personnes à avoir soit perdu l'électricité, perdu le gaz, perdu leur logement complètement, leur voiture, parce qu'ils ne remboursent pas leurs dettes, leurs créanciers, etc. Et c'est pas juste au Canada anglais, au Québec aussi, il y en a eu de ces cas-là, des gens qui mettaient leur compte d'Hydro-Québec avec une facture impayée de 5 000 $ en disant « Romana, faites quelque chose, ils vont nous couper l'électricité d'ici le début de l'été, qu'est-ce qu'on peut faire? » Et sans surprise, elle ne répond jamais à ce genre de message-là, tout en continuant à émettre des décrets qui affirme la gratuité de peu importe quoi ou donne de l'argent découpé avec une imprimante laser découpé à la main par la suite. Voici des billets de 10 000 $ dits du lot. Complètement triste, mais malheureusement, encore une fois, c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes qui ont eu maille à partir, soit avec la COVID ou avec d'autres choses plus récentes. T'sais, juste le climat en général, qui est très, très triste, qui n'est pas, heureux, tombe dans ces pièges-là parce qu'elle dit que grâce à elle, tout ira mieux, tout sera positif, etc., grâce à son propre argent imprimé à la main. Pour la citer, avant de conclure le segment, Dr. Christine Sarteschi, ce n'est pas la première fois que je lis ça. Il est très triste de voir ses partisans perdre leur propriété. Cela peut être évité. Di Lullo ne cesse de dire à ses partisans qu'ils ne doivent pas payer d'impôts, que tout est rendu gratuit grâce à elle. Rien de tout cela n'est vrai, évidemment, et ses adeptes paient le prix pour avoir cru à des choses, à ces fausses représentations. La professeure espère que le cas du couple de Saint-Simon de Rimouski incitera les autorités à faire davantage pour avertir le public du mal que le culte de Di Lullo a fait et continue de faire. Mais malheureusement, c'est un peu jeter un pavé dans la mare, ça ne fera pas grand-chose parce que depuis le reportage du Journal de Montréal, les sujets de Romano Di Lullo appellent à tuer Francis Pilon, le journaliste du Journal de Montréal. T'sais, c'est littéralement... ils font des fausses représentations de Romano Di Lullo. Faudrait les mettre en procès. Faudrait qu'il leur arrive quelque chose. Fait que non, ça va... C'est vraiment pas près de se régler, malheureusement. Et dans le meilleur des cas, les autorités vont s'en charger. En fouillant ce réseau Telegram-là, ça serait... Temps de peut-être faire le ménage là-dedans, ça c'est sûr et certain. On s'arrête là-dessus, au retour, la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et chez 94.3 à Québec. De retour au deuxième service, mais c'est en stéréo qu'on vient d'entendre en musique avec la pièce Panorama. Suivi de dossier, parce qu'on en avait parlé quand c'est arrivé un petit peu plus tôt le mois dernier, la justice brésilienne a finalement ordonné mardi 1er octobre la levée du blocage des comptes bancaires et des actifs de Twitter X au Brésil après que la plateforme ait accepté de payer plus de 5 millions de dollars d'amende. On ne précise pas si c'est 5 millions de dollars US ou 5 millions des réals brésiliens. Mais quand même, la décision du juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes ouvre la voie à une activation rapide du réseau social d'Elon Musk, où il a été suspendu depuis le 31 août. Donc, on pourra dire que septembre complet aura été un mois très tranquille pour le Brésil. Quoique, parce que les Brésiliens ont vraiment besoin de ravoir tant que ça Twitter, ça reste à discussion. Dans la nouvelle décision de M. Moraes, il a demandé à la Banque centrale du Brésil de débloquer les comptes et les actifs financiers de X afin que l'entreprise puisse recevoir des virements internationaux et d'effectuer immédiatement le paiement des amendes indiquées. Donc, faire un petit transfert Interac. Les finances de la société au Brésil avaient été gelées par la décision de la justice à la fin du mois d'août, juste avant que la plateforme devienne inaccessible dans tout le pays. On se souviendra d'ailleurs que même pour les Brésiliens, utiliser un VPN et s'ils se faisaient prendre à utiliser un logiciel pour trafiquer leur position géographique, ben ils pouvaient avoir des tickets carrément. Les finances de la société, ouais, je viens de le dire, selon l'arrêt, Twitter a informé la Cour suprême fédérale qu'il paierait les 28,6 millions de réals. Voilà, mon point d'interrogation est réglé. 28,6 millions de réals de dettes qu'ils avaient, soit 5,2 millions de dollars ou 3 amendes cumulées pour ne pas avoir respecté les décisions de justice et s'être soustrait au blocage imposé d'Alexandre de Moraes lui-même. Avant sa suspension, quelques 22 millions de personnes qui utilisaient le réseau social au Brésil, premier marché d'Amérique latine. Donc, c'était, ben en fait, c'est vrai que pour nous, au Canada, on n'a pas l'impression que, ben en fait, Twitter n'est pas le réseau social le plus populaire, mais du côté brésilien, eux, pour plusieurs, c'était vraiment leur principal réseau social. Donc, devant Facebook, je pense aussi devant Instagram, Twitter était vraiment le plus populaire en Amérique latine. Comme Messenger, c'est surtout en Amérique du Nord. Habituellement, en Amérique du Sud, c'est WhatsApp. Bon, ben l'alternative à Facebook, ce serait Twitter. Mais je veux pas trop m'avancer non plus, n'ayant pas les chiffres pour comparer, mais 22 millions de personnes, ça fait quand même beaucoup de gens. Le 18 septembre, le réseau social est devenu largement accessible. Mais le 18 septembre, le réseau social est devenu largement accessible dans le pays grâce à une manœuvre technique qui lui a permis de contourner le blocage avant d'être de nouveau mise en ligne le lendemain. Donc, quelqu'un avait trouvé la faille pour repartir la machine, mais évidemment, la justice a fait son travail. Depuis, l'entreprise a commencé à se conformer aux demandes de M. Moraes pour reprendre ses activités. Moraes et Elon Musk se livrent une bataille féroce depuis des mois autour de la conception de liberté d'expression. Pour Musk, Alexandre de Moraes est un juge dictateur et maléfique. Rien de moins. Et le magistrat pense, lui, que Twitter est le réseau social qui permet la diffusion d'informations qui nuisent à la démocratie, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Voilà, donc depuis avril dernier, le torchon brûle, voilà, entre Musk et de Moraes. C'est un juge de la Cour suprême qu'on pouvait lire en avril avait ordonné l'ouverture d'une enquête contre Elon Musk, propriétaire de Twitter, qui l'a accusé de censure et a réclamé sa démission lors d'attaques répétées sur son réseau social depuis samedi. Parce que oui, Elon Musk trouve ça judicieux de demander la démission d'un juge dans un pays qui n'est pas le sien parce que celui-ci veut le poursuivre. Beaucoup de sens, Elon, comme d'habitude. Dans un arrêt judiciaire consulté par l'agence France-Presse, le magistrat de Moraes a évoqué une supposée instrumentalisation criminelle de X de la part de Musk. Il a intimé le réseau social de s'abstenir de désobéir à tout ordre judiciaire, y compris en réactivant un compte dont le blocage avait été ordonné par la Cour suprême. C'est vrai. Donc, Elon Musk aime beaucoup ramener sur son compte Twitter des comptes qui avaient été bannis avant son règne sur la plateforme, ou en tout cas, avant la descente aux enfers de sa plateforme. Et c'était des comptes qui faisaient, peut-être pas nécessairement dans celui du Brésil, mais tu sais, les comptes américains qui ont été réactivés, c'est règle générale des comptes qui faisaient la promotion des idées du néo-nazisme. Il y avait des comptes racistes, homophobes, des comptes suprémacistes blancs. Il y avait aussi, tout ce qui était le plus infect du côté de Twitter et qui avait été justement enlevé de la plateforme parce que dépassement des limites. Ben Elon Musk, lui, justifiait le droit de parole et le droit à la liberté d'expression pour que ces personnes-là réintègre la plateforme Twitter en disant ben les gens feront la part des choses et trouveront moyen de discernement et feront l'effort de ne pas... en tout cas, peu importe les raisons qu'il donnait, c'est que justement, en tant que... Et ça, c'est ce qu'on lui reproche parce que maintenant, sa plateforme vaut à peine, à peine 20% de sa valeur qu'il l'a payée. C'est un échec total, Twitter. Depuis devenu X, c'est qu'après ça, Elon Musk vient pleurnicher en disant « Ah, oh, mais là, les annonceurs, vous n'êtes plus sur ma plateforme, vous me boycottez, je vais vous poursuivre de ne pas être sur mon Twitter. » Quand justement, ben lui, ce qu'il fait, c'est partager de la fausse information. Il le fait lui-même, il partage des images générées par intelligence artificielle qui ne sont pas véridiques, qui sont clairement de l'IA, mais qui fait à croire que c'est vrai. Il partage des théories qui sont fausses. Donc, sans surprise, en ce moment, les annonceurs fuient sa plateforme parce que justement, ça n'a pas de bon sens comme plateforme. N'importe quoi arrive, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans réelles conséquences parce que de toute façon, la modération, il n'y en a plus. Tout le monde a été mis dehors, ou à peu près. Fait que ça fait en sorte que, normalement, une compagnie bien constituée, mettons Nintendo, ne voudrait pas que ces publicités de jeux vidéo apparaissent à côté de tweets d'un Andrew Tate ou de n'importe quel autre polémiste américain d'extrême droite. Fait que, tu sais, c'est normal que les publicitaires veulent pas y être. Et après ça, Elon Musk se demande pourquoi. Ben, c'est parce que c'est pas modéré. Sa plateforme va n'importe où. Et cette liberté-là, justement, de dire n'importe quoi, n'importe quand, sans à peu près aucune conséquence, ben c'est ça qui devient dangereux. Des fois, si après plusieurs signalements, il y aura des comptes qui vont être coupés, vont être bannis, ou des tweets vont être supprimés, mais pas autant qu'à une autre époque où, justement, Twitter était surveillé. Donc, le Brésil récupère leur réseau social favori, mais... Est-ce que c'était réellement si grave que ça après un mois de non-fonctionnement? La question se pose. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bande annonce tout de suite. J'ai réussi à trouver une version française qui est assez rare puisque le film, au Québec du moins, est présenté avec sous-titres seulement. Le très compliqué Mégalopolis. Bande annonce.
Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non, non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus.
Ne laissons pas le présent détruire l'avenir.
Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue.
Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition?
Reprenons le pouvoir sur notre ville!
Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie.
Donc ça donne peut-être un indice de ce que ça peut ressembler, quoique pas vraiment, parce que c'est assez... indescriptible comme film, disons ça. Je suis encore pas certain de ce que j'ai été voir. Mégalopolis, c'est une épopée romaine qui se déroule dans une Amérique moderne, imaginaire, peut-être. La ville de Nouvelle-Rome doit changer, provoquant un conflit entre César Catilina, oui, Adam Driver, un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklin Cicero, Giancarlo Esposito, qui reste, lui, attaché à un statu quo régressif, perpétuant la cupidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane, déchirée entre eux, Giulia Cicero, Nathalie Emmanuel, la mondaine fille du maire dont l'amour pour César a divisé les loyautés, la forçant à découvrir ce qu'elle croit vraiment que l'humanité mérite. Peut-être. Au travers de ça, on retrouve Shia LaBeouf dans le rôle de Claudio Pulcher, qui est le cousin jaloux, on sait pas trop pourquoi, d'Adam Driver. On a Wow Platinum, Aubrey Plaza, qui, ironiquement, dans la bande-annonce juste avant le début de Megalopolis, était dans un film qui s'appelle Mon vieux cul. Fait que j'aimerais inventer ce genre d'affaires-là, mais malheureusement, c'est ça en ce moment. John Voight, qui joue Hamilton Crassus III, qui serait comme le propriétaire de la banque, pas de Megalopolis, mais de la Nouvelle-Rome. Fait que c'est comme le gars le plus riche dans le coin. Et ça s'adonne à être le père ou le grand-père de Shia LaBeouf. Ça aussi, il y a un bout de compliqué dans juste comprendre quel personnage est relié à qui et qui haït qui, pourquoi. Je le sais pas pour ce film-là. Ça divise énormément les critiques, ça c'est sûr. La moyenne de la presse québécoise, c'est 2 étoiles, 1 étoile. La presse, 1. Mediafilm, 2. Journal de Montréal, 2. Le gars de Cinoche a donné 4 étoiles. Est-ce que c'est parce que c'est tellement bizarre et mauvais que ça en est bon, tu sais, si étrange que... J'ai pas lu sa critique, fait, je peux pas comprendre exactement où est allé Martin Gignac avec son 4 étoiles. Mais, voilà. C'est compliqué. Il y a beaucoup... beaucoup de choses dans ce film-là qui aboutissent à rien au final. C'est dans la bande-annonce, le personnage d'Adam Driver peut arrêter le temps, mais divulgateur, il s'en sert jamais. Ou en tout cas, on ne sait pas pourquoi il a ce pouvoir-là, mais il s'en sert 2 fois et encore là, s'en sert-il vraiment? C'est ça. Tout le monde est fâché avec tout le monde parce que le maire veut faire un casino. Adam Driver, lui, veut faire Megalopolis avec une espèce d'élément qu'il a inventé, le Megalonium, ou en tout cas une affaire de même, pour que la ville soit indestructible. Ou en tout cas, qu'elle soit organique et indestructible en plein milieu de ce qui a l'air d'être New York, même si ça s'appelle Nouvelle-Rome. Techniquement, ça se passerait dans le futur. Sauf erreur. Il me semble que le film commence en disant qu'ils sont dans le 3e millénaire. Mais il n'y a rien de futuriste dans la ville. T'sais, c'est des chars au gaz. Ils sont peut-être habillés un peu funky, mais ce n'est pas des tenues futuristes comme dans un film futuriste, normalement, on devrait voir. Fait, encore là, c'est pas clair si on est dans une version alternative de l'actuel New York qui s'appelle Nouvelle-Rome et qui est juste un prétexte pour que tout ressemble un peu à la Grèce antique et à la Rome antique. Puis encore là, parce que tout le monde a des noms à consonance romaine, tu sais, César, Giulio, résonance italienne, ça ajoute quoi de plus? Pour le décor, peut-être. Il y a la chanteuse pop qui vient apparaître un moment donné, mais qui a fait son set, puis elle sac son camp, puis that's it. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a trop de choses dans ce film-là de Francis Ford Coppola, que son nom est écrit à beaucoup d'endroits, au début et à la fin du film, parce qu'il faut savoir également qu'il a mis 120 millions de sa propre poche pour faire ce film-là. Au Québec, il a à peine fait 5 millions à sa première fin de semaine, puis même encore, je pense que 5 millions, c'est beaucoup trop généreux. En Amérique, peut-être, il a fait 5 millions. Au Québec, il n'a fait que 40 000 piastres. à sa première fin de semaine. C'est 4 millions en Amérique du Nord, ce qui est une catastrophe. Même Lionsgate, ceux qui proposent le film, qui envoient les bandes-annonces du film, ont mis le strict minimum. C'est un naufrage. Et l'argument de vente de Megalopolis dans sa bande originale anglophone, c'était de proposer les mauvaises critiques de ses précédents films qui aujourd'hui sont considérés comme des œuvres d'art et des chefs-d'œuvre de la cinématographie des années 70, 80, 90. Apocalypse Now, pour ne pas le nommer, qui a été froidement reçu lorsque le film est sorti, mais qu'aujourd'hui est considéré comme étant un chef-d'œuvre. Les Parrains, ça rentre là-dedans aussi. American Graffiti, je ne sais pas si les critiques n'étaient pas bonnes, mais en tout cas, dans les premiers films de Coppola, on le recevait un peu froidement. Évidemment, Megalopolis n'est pas bien reçu. Il n'y a pas grand monde. En fait, c'est soit on a adoré, qu'on a compris le 8e, 9e, 30e degré, ou on n'a rien compris, c'est weird, et allez pas voir ça. Quoique, c'est 2h20. Comme je le disais, au Québec, c'est surtout des versions sous-titrées qui sont disponibles, à moins que quelqu'un s'essaye avec la version de France, parce qu'il n'y a pas de doublage québécois, c'est sûr et certain. Coppola n'a pas nécessairement un autre budget pour faire le doublage dans tous les pays non plus. Fait que voilà. Est-ce que c'est du studio César film? Ça s'invente pas. Lawrence Fishburne, qui joue le garde du corps et narrateur du film. Ça vaut la peine d'aller le voir en salle parce que ça ne sera probablement jamais représenté après ça en salle. Ou peut-être quand Coppola sera mort, qu'il va être à l'affiche 3 jours en alternance avec les autres. Vrai gros succès de Coppola. Est-ce que pour faire un clin d'œil à Barbie, ça m'aurait pris un Ken qui m'explique tout le génie de Coppola à côté de moi? Je le sais pas, mais les 4 spectateurs dans la salle qui étaient avec moi, dont le couple en arrière de moi, eux ont ri à peu près aux mêmes places où c'était absurde que moi. Et c'est ça. On est peut-être sorti un peu plus découragé que d'autres choses de la projection hier soir. Donc voilà, Megalopolis, étrange mystère qui est soit haï ou soit adoré pour peut-être les mauvaises raisons aussi, de Coppola qui tentait peut-être de faire un ultime film. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un aura spécial. Peut-être y aura-t-il un autre dernier film de Coppola qui sera moins compliqué ou en tout cas. Trop d'affaires dans ce film-là pour faire quelque chose qui se peut. Je suis même pas sûr également de la trame principale où ce qu'on s'en allait avec ça. Bref. Courte pause, on retrouve la conclusion de l'émission de cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Passons d'un réseau social à l'autre. Comme je le disais tantôt, Twitter payera finalement son dû du côté du Brésil. Meta est aussi un peu dans l'eau chaude cette semaine, ou en tout cas, ça n'a pas pris de temps que le réseau social Meta avait mis en vente récemment des lunettes connectées de marque Ray-Ban, bon, qui pouvaient peut-être être utiles avec Facebook ou en tout cas. Des lunettes connectées, un peu comme Google a essayé avec ses lunettes à eux, ben Meta est arrivé avec son modèle. Et évidemment, ben, ça n'a pas pris de temps que des gens ont fait des tests avec ces lunettes-là et ont été capables de trouver des informations personnelles sur les gens qu'ils croisaient. Deux étudiants de Harvard ont adapté en lunettes intelligentes les Ray-Ban de Meta pour y ajouter une technologie de reconnaissance faciale qui extrait automatiquement d'autres occurrences de visage de la personne en ligne. Le système déduit ensuite le nom de la personne et obtient son adresse, son numéro de téléphone et les noms des membres de sa famille le plus facilement possible. Ça se nomme en anglais du doxing, soit l'action de divulguer sur Internet des informations personnelles d'une personne dans le but de la harceler. Selon le magazine 404 Media, cette histoire est l'une des plus folles jamais entendues sur la protection de la vie privée parce que si tu fais juste traficoter un appareil, il était capable d'avoir accès au nom de jeune fille, de la mère, du gars que tu es en train de parler avec, ben, c'est pas bon signe. Anfo Nguyen et Kain Ardafio, deux étudiants de Harvard qui ont baptisé leur projet EX-Ray, ont construit ce que les grandes entreprises technologiques refusaient de rendre public en raison du risque et des dangers considérables que cela comporterait. Des lunettes intelligentes dotées d'une technologie de reconnaissance faciale qui permet de regarder le visage d'une personne et, grâce aux lunettes, trouver qui cette personne est. Le projet a été conçu pour sensibiliser ce qui est possible avec cette technologie, soit un monde où l'identité et les informations personnelles de tous et chacun peuvent être retrouvées en un instant par des inconnus. Parce que si eux sont capables de le faire, il y a des fraudeurs à quelque part qui vont être capables de le faire aussi. La vidéo de démonstration postée sur Twitter montre la paire d'étudiants utilisant la technologie avec différentes personnes. Dans l'un des premiers exemples, Ardaifo se dirige vers le porteur pour l'utiliser. Il suffit de mettre les lunettes et lorsque vous passez devant les gens, les lunettes détectent si le visage de quelqu'un est dans le cadre. Après quelques secondes, leurs informations personnelles apparaissent sur votre téléphone parce que la recherche Google ou Internet se fait. Dans un autre exemple, la vidéo montre un test sur ce qu'elle décrit comme une vraie personne dans le métro. On peut deviner peut-être que c'est arrangé avec le gars des vues ou avec le gars de l'Internet dans ce cas-ci. Mais en tout cas, on l'espère que c'est arrangé avec quelqu'un. Le gars regarde les résultats d'une correspondance faciale sur son téléphone, puis s'approche d'une femme qui s'appelle Betsy. Elle se présente et affirme qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une fondation particulière en référence à un élément figurant dans les résultats de recherche. Donc, êtes-vous Betsy? Oui, je ne vous replace pas. Oui, on a fait du bénévolat ensemble il y a 3 ans à tel organisme, comme vous avez écrit sur votre Facebook. Fait que tu sais, rapidement, ça peut devenir problématique et frauduleux. Dans notre vidéo, nous avons délibérément ajouté des réactions que nous avons obtenues de personnes aléatoires dans le métro de Boston en faisant comme si nous les connaissons. Donc, voilà. Avec les informations qu'on était capable de trouver sur ces dites personnes-là, on était capable d'improviser une conversation de « Hey, t'es-tu Mark qui travaille à tel resto? » Salut, on s'est déjà vu, même si on ne s'est jamais vu. Beaucoup de gens ont réagi en disant « Oh, c'est évidemment très cool, on peut l'utiliser pour le réseau, je peux l'utiliser pour faire des faces à mes amis et faire des vidéos drôles. » Mais certains, eux, ont évoqué le risque au harcèlement. Un type pourrait trouver l'adresse d'une fille dans le train et la suivre jusque chez elle, très facilement, ayant obtenu son adresse. Donc, en plus de faire attention à ce que les gens postent, à ce que les gens mettent sur leurs réseaux sociaux, les informations qu'ils donnent sur leurs réseaux sociaux, ben il faut faire attention parce que tel un très bon épisode de la série Black Mirror sur Netflix qui justement nous parle de ces univers alternatifs qui sont si facilement piratables et où il n'y a plus de vie privée, ça s'en vient. Quelqu'un a été capable de le faire avec les Ray-Ban de Facebook. Fait que voilà. Est-ce que c'est problématique? Évidemment. Est-ce qu'on va être capable de trouver un moyen de réglementer ça? Va falloir. Parce que sinon, on aura droit à avoir encore Mark Zuckerberg, le robot, devant le Congrès américain qui va devoir se justifier que c'était pas le but de ces Ray-Ban. Et probablement que Ray-Ban aussi devra se justifier à ce moment-là, mais d'avoir encore Mark Zuckerberg devant le Congrès pour expliquer pourquoi ces lunettes sont capables de trouver le code postal de la personne avec qui tu jases, c'est pas normal. Évidemment, dans ce cas-ci, ça a été détourné. Mais comme je le dis, c'est pas parce que des étudiants bien intentionnés sont capables de le faire que c'est pas n'importe qui d'autre qui est capable de le faire. Donc, voilà pour ça. Surveillez ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Ce serait le conseil général à dire tout le temps. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut!